Bonjour, bienvenue, bon matin. Bienvenue à ce nouveau partage. Et puis, j'ai été obligé de couper la parole là, parce qu'il y a trop d'enthousiasme ici ce matin. Et puis, ce matin, on voudrait honorer les mamans. Hein? On voudrait se prendre un temps pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Les femmes de nos vies. Hein? Les mamans, c'était les femmes de nos vies. Hein? C'était les femmes qui ont marqué nos vies, les mères. Et puis, si vous voulez, on va prendre le temps parce que souvent, j'oublie de saluer les gens qui sont sur Internet. Nous autres, on est toujours en famille ici. On pense pas qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, oui, il y a des gens qui nous écoutent parce que je reçois des courriels. Et puis, je voudrais saluer ces gens-là. On veut vous saluer. La famille Chabot vous salue chaleureusement. Et les gens aussi, il y a des gens qui m'ont demandé de vous saluer aussi. De saluer toute la famille. Et puis, probablement, peut-être que ces gens-là ont... Ils font déjà partie de la famille parce que ce sont des frères et sœurs. Donc, on va se voir, si c'est pas ici, on va se voir en haut. Hein? Amen. Et puis, j'ai ma petite sœur Lynn qui est à côté de moi. Et puis, je vais prier, on va remettre ça au Seigneur. Après ça, je vais vous, Lynn, elle va nous faire un résumé du dernier partage. Donc, merci Seigneur pour le privilège qu'on a d'être ensemble ce matin encore une fois. Merci Seigneur, puis on veut proclamer Seigneur ce matin que tu es notre Dieu, notre grand et redoutable Dieu. Seigneur, tu es notre Dieu, et puis on s'attend à toi ce matin. On veut te louer, on veut t'adorer pour ce que tu es, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Et puis on veut te dire merci de pouvoir étudier ta parole ce matin, de pouvoir recevoir tes enseignements. Et puis Seigneur, ce matin, on veut te réclamer cette promesse. On prend le modèle dans la Bible que tu nous as donné, hein. Les gens, ils proclament que tu es Dieu, après ça, ils réclament une promesse. Donc, on veut faire ça ce matin, nous aussi, Seigneur, parce que tu as dit, Jésus, là où vous serez deux ou trois assemblés à mon nom, vous serez parmi nous. Et puis, Seigneur, ce matin, on veut que tu sois avec nous, que tu parles à nos cœurs, que tu rouvres nos cœurs, les yeux de notre cœur, que tu amènes nos pensées avec toi dans l'éternité, que tu nous révèles tes pépites. Et pour que tu puisses enlever de ce qui est mauvais dans nos cœurs, Seigneur, le remplacer par ta portion. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc, voici, je vous... Immédiatement, on passe avec Lynn. Merci.
Ben, bon dimanche. On parle de la restauration divine dans le livre de Néhémie. Le nom de Néhémie signifie « consolation de l'Éternel ». Le travail de Néhémie a commencé en 445 avant Jésus-Christ. Et c'était apparemment au temps de, comparativement à nous, le novembre et décembre. Il semble qu'à ce moment-là, la nation était à l'agonie, la muraille détruite et ses portes brûlées par le feu. Néhémie tombe assis et est en pleine larme après avoir entendu le rapport. Il jeûne et il prie Dieu. Néhémie 1:5, Néhémie confesse la souveraineté de Dieu, il demande la miséricorde, mais surtout, Néhémie 1, verset 11, il demande « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » Il s'inclut dans la faute avec le peuple, mais il demande à Dieu de se souvenir de la promesse de l'Alliance nationale de restauration. Et il utilise les textes bibliques dans le texte. Vous pourrez aller voir sur Internet, les références sont données. C'est intéressant d'aller voir les références. Alors que l'homme avait rompu l'Alliance, la miséricorde de Dieu a dépassé tous leurs échecs. Néhémie demande grâce du mot hébreu qui est racham, mais non pas un autre mot, comme disait Mario, mais lui, je l'ai pas retenu. Et le mot racham ou racham, je sais pas si je le prononce bien, signifie compassion dans le sens de sentiment maternel. Comme c'est la fête des mères aujourd'hui, on sait c'est quoi le sentiment maternel. La compassion des mamans, les grands cœurs de toutes les mamans. Mais Néhémie invoque cette miséricorde-là, cette grâce-là et cette compassion. Néhémie, il est échanson du roi, un statut très élevé après le roi. Mais pourquoi il demande, mais maintenant, Seigneur, donne du succès à ton serviteur? C'était, après le roi, un titre très, 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 très prestigieux d'être échanson du roi. Mais encore, il demandait du succès à son serviteur. C'était-tu parce que cette position-là, pour lui, c'était pas celle-là qu'il voulait. C'était une autre position qu'il demandait auprès de Dieu. Et bien sûr que certainement, il avait du succès dans sa vie terrestre pour être dans un titre comme celui-là. Mais il demande encore du succès auprès de Dieu, comme s'il sait très bien que son succès ne vient pas de lui. Regardez l'humilité de Néhémie, quand même. N'est-ce pas rassurant de voir cette humilité-là, la miséricorde, et il ne cache pas ses sentiments, mais il les crie à Dieu. La douleur et la tristesse garantent d'une profonde et sincère relation avec Dieu qui rejoint tout le peuple, qui est un exemple pour tout le peuple de son leadership. Ce que Néhémie nous montre, c'est qu'il ne tente pas de se cacher ou d'éviter son chagrin, mais il s'est répandu devant Dieu. La prière constitue un fondement solide pour nos vies et notre leadership. Le cas de Néhémie nous encourage à chercher la direction de Dieu dans la prière. Il n'y aurait pas aucun titre sur la terre assez pour nous satisfaire, même pas les chansons du roi. Quand même, quand tu es un chanson du roi, tu as besoin de crier à Dieu pour qu'il vienne à ton secours, peu importe toutes les qualités humaines qu'on pourrait avoir. Donc, Seigneur, Néhémie nous apprend dans l'humilité à recevoir la provision de Dieu. Seigneur, apprends-nous à être des hommes et des femmes qui plongent dans la prière, dans l'humilité, et qui répandent leur cœur à tes pieds. Amen.
Merci, là. Merci, ma petite sœur. Et puis, excusez si ça grèche un petit peu, je suis en train de me réinstaller. Et puis, si vous voulez, on va commencer avec la portion d'aujourd'hui. Je suis en train d'ajuster le son, là. C'est un petit peu difficile, mais excusez si ça grèche un petit peu, mais c'est pas ça qui est important. Ne regardez pas l'enveloppe, regardez le contenu. Donc, on va baisser ça un petit peu. OK, aujourd'hui, on voit la deuxième partie, et puis la deuxième partie, ça va s'intituler « Préparation à la reconstruction ». Et puis, on va continuer comme d'habitude, je vous donnerai pas vos feuilles, parce que vous êtes trop indisciplinés. Vous avez trop hâte d'avoir ce que le Seigneur va vous dire, c'est parce que vous avez de l'enthousiasme. Je sais pas, vous êtes pas indisciplinés, mais je vous trouve très, très gentil, très gentil. Donc, « Préparation de la reconstruction », Néhémie 2. On a oublié d'écouter. Néhémie 2, versets 1 à 20. Et puis, normalement, je dis ça parce qu'on prend le temps d'écouter. On l'écoute. On a la Bible en audio. On écoute le chapitre. Mais c'est pas grave. Le plan de Dieu est parfait. Hein? Bon, on va y aller avec ça. Donc, introduction. Je vais faire une petite introduction sur... puis ma sœur, elle va bien aimer ça. Là, parce que c'est dans c'est des affaires qu'elle étudie présentement. Dans Néhémie 2... L'introduction, on va faire une introduction qui s'intitule « Leadership spirituel ou pragmatique ». Oh, qu'est-ce que c'est pragmatique? Ça veut dire pragmatique, ça veut dire pratico-pratique. C'est quelqu'un qui est très très terre à terre. Pragmatique, c'est quelqu'un qui est contraire à la foi. Il va s'en aller dans le sens pas qu'il n'y a pas la foi là. C'est que lui vous allez voir, on va le définir ça un petit peu, mais pour lui, dire que Dieu va pourvoir, c'est tenter Dieu. Comprenez-vous? Ouais. Lui, c'est comme l'ennemi qui avait dit à Jésus dans le désert, qui avait dit, ben, si t'es Dieu, tu changes ces pierres-là, ou jette-toi en bas, si t'es Dieu, tu sais. Les anges vont venir. Puis Jésus avait répondu, tu ne tenteras point ton Dieu. Fait que ces gens-là, voyez-vous, ils ont deux. Le fondement sont dans la Bible, toutes les deux. Mais ils ont deux sortes de leadership différentes. Donc, on va regarder ça. Mais encore là, faut faire attention avant de statuer. Faut pas statuer trop vite. Hein? L'important, on a vu, c'est pas de prendre position tout de suite. Donc, il est familier de rencontrer des conflits dans l'Église occasionnés par les deux sortes de leadership. Spirituel ou pragmatique, ces gens-là sont fondamentalement opposés dans leur façon de fonctionner. D'un côté, on a les visionnaires spirituels. D'autre côté, on a les leaders pragmatiques. Premier nous exhorte à faire confiance à Dieu. Hein? et de ne pas se préoccuper des finances. Mettons, on parle des finances. Ah, ouais, c'est pas grave. Ouais, on y va, puis on s'occupe pas des finances. Dieu va pourvoir. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, ils calculent tout avant de prendre une décision. Puis en lançant l'argument de la prudence fiscale par la sagesse. Ils vont dire ça, c'est de la sagesse. Le budget par la foi, pour ce dernier, c'est tenter Dieu. C'est pas un geste de foi. Et puis, mais les visionnaires nous incitent à sortir du bateau par la foi et à marcher sur l'eau. Hein? Donc, et puis ils disent, ben, si tu fais ça, tu limites ce que Dieu peut faire dans ta vie. Vous comprenez? Les deux paradoxes. Bien que ce type de désaccord puisse se produire dans une attitude d'amour et de respect mutuel, il représente une divergence dans les valeurs et les pratiques de leadership. Certains dirigeants sont bien connus pour leur discipline spirituelle dans la prière et dans l'étude de la Bible, tandis que d'autres sont reconnus pour leur côté pratico-pratique pour une sagesse terre-à-terre. Ils ont toujours une sagesse terre-à-terre. Seul un petit nombre trouve l'équilibre entre les deux. C'est encore l'équilibre qu'il faut aller chercher entre les deux. Et on va regarder ça. Donc, Néhémie se présente premièrement comme un chef spirituel dont le cœur est affecté au sujet du rapport de la situation du peuple. Dans les larmes, il partage son cœur à Dieu et dans des périodes de prière intense. Si nous lisons seulement que le chapitre 1, on pourrait penser que Néhémie, c'est un leader, c'est un visionnaire spirituel. Qui, jusque-là, on pourrait dire c'est un visionnaire spirituel. Dont l'esprit est fixé juste sur les choses en haut et non pas sur l'aspect pratique de la vie quotidienne. Si on regarde ce qu'il fait là, il est vraiment fixé sur les choses. Il joue et puis mais le deuxième chapitre nous montre une autre facette de Néhémie. Et puis il joue une stratégie prudente en vue de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Donc on va voir que c'est différent. L'exemple de Néhémie dans ce chapitre permet de résoudre le débat entre les deux. Entre ceux qui prônent le leadership visionnaire et entre ceux qui prônent. Fait qu'on va pouvoir faire la part entre les deux. Donc, la première étape, là, on continue à faire comme le walkthrough, là, excusez, la démarche pas à pas. On ne fera pas toutes les mi deux aujourd'hui, il y a trop de bagages. Donc, je vous ai écouté. Hein? Et puis, on va le diviser en deux parties. Donc, aujourd'hui, on lance comme on vient de faire, on fait une introduction, on regarde les mi, on réfléchit à ça pendant la semaine, puis mercredi, on va finir le chapitre 2, puis on va faire une réflexion. On va faire la réflexion entre les deux. Donc, Néhémie a entendu parler pour la première fois de l'effroyable condition de Jérusalem au mois de Kislev, dans Néhémie 1.1, et dans le verset 2, il fait référence au mois de Nisan. Ah, Nisan. C'est 4 mois plus tard. 4 mois. Donc, il s'est passé 4 mois entre le verset 1 et le verset 2. Donc, Néhémie a pris un temps, parce qu'on veut jusqu'à jour, là où on veut aller, c'est que Néhémie a pris un temps de préparation. En prière, puis en préparation. Avant d'agir. Mais, on va développer, là, je vous donne les hints, tu sais. Néhémie est dans son rôle officiel en tant que chanson du roi, Artaxerxès, mais quelque chose est différent maintenant. Là, au verset 2, Néhémie, il révèle sa tristesse. Pour la première fois, il va révéler sa tristesse devant le roi. Et puis ça, c'est... bien qu'il ait été dans le deuil, en deuil pendant 4 mois, ce n'est que maintenant, 4 mois après, que Néhémie montre ses sentiments. Pourquoi il a fait ça? Bien que nous ne puissions pas le savoir avec certitude, cette libre expression de tristesse a été la première étape d'une stratégie de Néhémie. Némi, il avait une stratégie, ça va. Moi, je trouve drôle, Némi, quand je l'étudie, là. Il est wise. Il dit, c'est une stratégie pour gagner le soutien du roi. En effet, un serviteur n'était pas autorisé à ouvrir une discussion avec le roi. Tu n'étais pas autorisé à parler au roi ou à ouvrir une discussion. Tu répondais au roi. C'était point. Voyez-vous, la position d'autorité qu'il avait, c'était très important, très hiérarchique. Et puis celui-ci, à cause que Néhémie est triste, mais là, le roi est du monde, c'est quoi qui marche pas. Donc Néhémie, par son attitude, il savait qu'il ouvrirait une porte pour que le roi il pose une question, puis là, il pourrait rentrer dans le sujet avec une demande spéciale au roi. Sans doute, cette stratégie comportait des risques. Parce que quand le roi a demandé à son échanson pourquoi il était triste, Néhémie est devenu saisi d'une grande crainte. Là, c'était le... c'était là que ça se passait. Là, il misait à peu près tout. Donc, sachant qu'il était sur le point de demander une grande et inhabituelle faveur, il se sentait nerveux et c'était compréhensible. S'il aurait déplu au roi, il pouvait perdre son travail, il pourrait perdre la vie. Si tu déplaisais au roi, c'était comme ça. Fait que c'était se présenter devant le roi, là, c'était pas rien. C'était quelque chose qui était... C'était stratégique. Fait que donc, vous comprenez le stress et l'angoisse de Néhémie là, dans sa démarche. Donc, avec autant en jeu, Néhémie a commencé avec la sagesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Que le roi vive éternellement. Il a flatté le roi. Et puis ensuite, il a expliqué sa tristesse. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Lorsque la ville où les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. C'est intéressant, ça. Notez qu'il n'a pas fait mention de Jérusalem et de Juda. Il a dit, les sépulcres de mes pères sont détruits. Il n'a pas mentionné le côté religieux en premier. Voyez-vous comment est-ce qu'il a joué sa game? Il l'a joué vraiment à ce stade, rien à voir avec le fait de la religion d'Israël. Mais il a formulé le problème en termes que le roi perse pouvait comprendre, il pouvait être compatissant. Il a parlé des sépulcres de ses pères, puis le roi, il sait ce que c'est, les sépulcres de ses pères. Donc, tout de suite, le roi était compatissant à ça. Mais il n'a pas parlé de la religion. Il était un petit peu ratoureux, hein? Et puis, sa réponse, il dit, que demandez-vous? Il a demandé à Amy qu'elle de, montre que sa stratégie avait eu du succès. Vraiment, sa stratégie pour aller chercher le roi avait eu du succès. Donc, avant de répondre, qu'est-ce qu'il fait, Néhémie, encore une fois? Moi, j'ai trouvé ça drôle. Il a prié. Ça dit dans le verset, quand le roi il a demandé « Que demandez-vous? » Ça dit « Néhémie, il prie. » Il a prié avant de parler. C'est pas pire, hein? Probablement, rapidement, comme nous autres, on prie d'un fois, comme ma fille prie avant son examen. Son examen. Ou quand que moi, je prie quand que je vois les lumières de police en arrière de mon char. Ou quand... Que... Ou quand que ma soeur a vu des garde-pêches arriver, qui est sur le bord de la rivière. On fait des petites prières rapides, hein? C'est comme ça que Néhémie doit faire ça. Seigneur. Et puis, on a tous expérimenté ça, hein, ces prières-là. Et puis, ou bien donc quand on s'apprête à demander des vacances à notre patron. Hein? Néhémie pose sa question ensuite de manière directe, de façon à toujours honorer le roi en disant « Si le roi te trouve bon, si le roi le trouve bon, et ton serviteur lui est agréable, il va dire si tu m'aimes. » Voyez-vous comment est-ce qu'il écoute ça? Et c'est très, très planifié son affaire. Il dit « Envoie-moi en Juda. » Vers la ville des sépulcres de mes pères que je la rebâtisse. Ensuite, le tout dirigeant, n'importe quel dirigeant aurait évalué le prix à payer de ça, d'envoyer Néhémie, quel prix ça va coûter, hein, d'envoyer son échanson, ça va être quoi, il va être parti combien de temps? Fait que le roi, il dit, le roi taxait 16, il était, sa femme, ça dit que sa femme était assise à côté de lui, il a demandé combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Puis Néhémie avait déjà évalué sa mission pendant ces 4 mois. Hein, il avait préparé. Il était prêt à répondre au roi. Puis, 2 ans? 12 ans. Mais il n'a pas dit 12 ans au roi, c'est sûr. Donc, il a évalué la mission. Il voulait savoir combien de temps il serait absent. Apparemment, Néhémie avait planifié les détails de cette demande. On voit que c'était bien travaillé, Néhémie. Oh. Donc, les détails de cette demande à l'avance, car il a offert une réponse qui a satisfait le roi. On ne sait pas les détails, mais il a donné une réponse au roi que c'était correct. Le roi a dit OK. Et puis, il a donné sûrement un calendrier beaucoup plus court, comme tu disais, Lynn, 2 ans, parce qu'en fait, Néhémie est resté parti 12 ans pour rebâtir la muraille. Ça n'a pas pris 12 ans à rebâtir la muraille, mais il est resté parti 12 ans. On va le voir plus vite. Néhémie est resté 12 ans à Juda, comme ce n'est non indiqué dans le chapitre 1. Nous pouvons constater que Néhémie a utilisé son temps de deuil, puis son temps de prière de 4 mois pour pousser ça qu'il planifiait avant de se présenter devant le roi. Il avait été devant Dieu, puis il avait planifié son avenir. Donc, il avait un côté pragmatique. Après avoir obtenu l'approbation du roi, Néhémie a continué dans sa stratégie pour obtenir tout ce qu'il fallait d'Artaxerxès. Voyez-vous sa stratégie? Comment est-ce qu'ils font? Tout d'abord, il demande des lettres de la part du roi pour que, dans le fond, il dit qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Parce que c'était un autre gouverneur qui était à l'autre côté du fleuve. Il était sous le roi perse, mais c'était un autre gouverneur. Les Perses considéraient l'ouest de l'Euphrate jusqu'à la mer de la Méditerranée comme une grande région appelée l'autre côté du fleuve. Pardon. Néhémie s'attend à ce que les gouverneurs de cette région pourraient être moins enthousiastes à propos de son projet de reconstruction et pourraient peut-être tenter de l'arrêter. Voyez-vous comment est-ce qu'il planifie? Donc, il regarde ça, il dit, OK, je vais arriver là, j'ai besoin des lettres du roi pour appuyer ma démarche. Donc, une lettre du roi permettrait de fermer cette porte-là à l'ennemi. En outre, Néhémie a demandé le bois d'œuvre provenant de la forêt du roi, dans le verset 2-8. Puis le lieu précise que cette forêt devait être relativement proche de Jérusalem. Dans le temps, il y avait maintenant une plus. Dans le temps, il y avait du bois qui était proche de toi. Donc, c'est pour ça qu'il avait réclamé ça. Mais aujourd'hui, on peut pas être en mesure d'identifier de quelle forêt il s'agissait, mais on sait que ça venait du trésor royal. Hein. C'est juste dans sa demande de bois, voyez-vous, qu'il a déjà eu l'approbation du roi. Il a déjà commencé à... Tu sais, c'est comme, je vais vous donner un exemple, une image tantôt que j'ai eue avec le Seigneur hier, par rapport à ça. Donc, il a déjà eu l'approbation du roi pour partir. Il a déjà eu l'approbation. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Ben, tu me donneras-tu des lettres? T'sais? Puis là, ben, tu me donneras-tu du bois? T'sais? Puis, il continue dans sa chose. Mais là, le roi, il a la main dans la guerre parce qu'il dit oui. Savez-vous comment il procède? Donc, c'est la première fois quand il demande le bois qu'il dit qu'il va reconstruire les murailles de la ville. Il a jamais parlé qu'il reconstruirait la muraille en avant ça. Il a reparlé de reconstruire la muraille après que le roi a dit oui. Mais il fait, tu sais, ben, ben, subtilement, habilement. Il le fait très habilement. Et puis, ça aurait pu être problématique qu'il nomme avant. Parce qu'un peuple qui tient à être rebelle, il va fortifier sa ville. Voyez-vous, c'est ça qu'il voyait, c'est ça que le monde avait peur. Il tire bâtisse la muraille, c'est parce qu'il voulait être rebelle. Donc, il n'a pas mentionné ça tout de suite, il a mentionné ça juste après. Du coup, après. Dans le fond, le roi accorde à Néhémie tout ce qu'il demande. En effet, il a été exceptionnellement habile dans sa présentation au roi. Néhémie ne prend pas de crédit pour lui-même, parce que dans le verset 8, il dit « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » C'est pour ça que le roi, il m'a donné tout ce que je voulais. Même s'il a utilisé ses ressources personnelles, il prend aucun crédit pour lui. Il dit, gloire à Dieu, on a un Dieu souverain, puis il proclame la souveraineté de Dieu. Par contre, je veux juste vous dire que la façon qu'il s'est pris, c'est pareil comme si ma fille, elle vient de me voir, puis elle me dit, papa, j'aurais besoin d'une jupe. OK. T'as besoin d'une jupe, OK. Là, on part, on s'en va acheter une jupe. Mais là, elle essaye ça, ben là, ça me prendrait quasiment une chemise. Tu sais, puis là, ah ben, c'est vrai que ça prendrait, c'est vrai que ça l'est là. Oui, mais tu trouves-tu qu'il y a des souliers, ça serait beau aussi? Mais si elle aurait demandé, papa, je veux que tu m'achètes une jupe, une chemise, des souliers, un collier. Ben non, tu sais, ça a dit non. Mais là, Néhémie, c'est ça qu'il a fait. Il est vrai. Il a été bien habile dans sa demande avec le roi qui a fait, qui a eu ce qu'il voulait. Donc, c'est un wise. Donc, Marie, elle l'a. Ma fille arrive. Première rencontre, ensuite on voit la première rencontre avec les dirigeants de la boue. Donc, afin de garantir la sécurité du passage de la région du fleuve, Néhémie a donné les lettres du roi au gouverneur en place. Ensuite, il est allé régler ce problème-là. Donc, on apprend maintenant que le roi a également envoyé une petite escorte militaire avec lui. Vous voyez, c'est la différence qu'on avait vue avec Esdras. Esdras avait dit, la bonne main de notre Dieu. Puis lui, il monte avec l'escorte. Donc, c'est nommé par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Verset 2-9. Nous ne savons pas si Néhémie a demandé cette escorte ou si le roi a eu l'idée lui-même de lui fournir une escorte. Mais nous savons que Néhémie a dit oui. Il a accepté l'escorte. Ça vient un petit peu en contraste avec la décision d'Ezra. Vous voyez que c'est deux leaders différents. C'est deux leaders, c'est deux hommes de Dieu. Mais deux leaders différents. Et puis, Ezra, ça n'avait pas demandé une escorte parce qu'il disait que c'était comme le contraire à sa foi, à ce qu'il disait, à ce qu'il confessait. Fait que c'est intéressant, hein, pour la protection de Dieu. Bien que les deux, Ezra et Néhémie, ont construit Israël dans le renouvellement, qui ont conduit Israël dans le renouvellement, ils ont mené des styles différents. Ils ont mené avec des styles différents. Pour ne pas dire des convictions théologiques différentes. Donc, le verset 10 nous présente deux hommes qui apparaissent fréquemment dans le livre de Néhémie, Sanballa et Tobija. Et puis, on va juste voir c'est qui ces gens-là. C'est qui Sanballa et Tobija? On va regarder ça. Sanballa. Donc, Sanballa, c'était le Horonite. Tobija, c'était le fonctionnaire ammonite. Donc, le terme Horonite identifie Sanballa dans son lieu d'origine, bien que les chercheurs sont en désaccord sur l'emplacement précis. Une ancienne lettre l'identifie comme le gouverneur de la Samarie. Il était gouverneur de la Samarie. Et puis, qui aurait été autorisé par le roi perse. Donc, c'était quelqu'un qui était en position d'autorité. Sanballa. Le nom Tobija signifie « Dieu est bon » en hébreu. Donc, ce fait, ainsi que des liens étroits avec Tobija, avec le peuple d'Israël, on voit ça dans Néhémie 6-18, Néhémie 13-7, Tobija, il y avait des plugs. Excusez l'expression, là, mais il y avait des connexions avec le peuple. Il y a certains commentateurs qui pensent que c'est un juif qui régnait sur le peuple, sur les peuples ammonites, qui régnait dans la mort. Mais si on suit aux Écritures, on peut pas, tu sais, comme Pasteur Mamadou, il dira pas ça, hein? C'est pas ça qui est écrit. C'est parce qu'on parle du Pasteur Mamadou parce qu'on a écouté avec mes petites sœurs. Vendredi soir, c'était la fête à ma petite sœur Carmen. Bonne fête, ma petite sœur Carmen! Et puis, on a écouté une prêche, on s'est fait un cadeau, on a écouté la parole de Dieu. Et puis, on a écouté une prêche de Pasteur Mamadou Karambouri. Et puis, ça s'appelle la vie chrétienne, vie surnaturelle, âme sensible s'abstenir, âme charnelle s'abstenir. Mais si vous avez le goût de vous faire brasser le chrétien, c'est une très bonne prédication. Moi, j'adore écouter ce pasteur-là parce que il est simple, puis c'est ce que la Bible dit. Il parle la vérité, il parle avec autorité, puis on voit qu'il est animé par le Saint-Esprit. Donc, moi, je suis très béni d'écouter cet homme-là. J'ai déjà recommandé cette prédication-là à une personne que je connais qui avait, je veux pas porter de jugement, mais qui était peut-être plus au niveau du début, là, tu sais, au lait. Puis lui, il m'a parlé de la grâce. Il dit, moi, Mario, j'ai écouté cet homme-là, puis j'ai pas entendu parler de la grâce. Donc, voyez, la grâce, faut faire attention comment on l'utilise. La grâce, là, ça peut nous permettre de vivre dans le péché. Si on l'utilise pas, c'est ce que je disais dans les cours que j'ai refaits hier. J'ai refait les deux cours sur notre position. Puis la grâce, on voit que c'est quelque chose qui nous a été donné pour se relever. C'est quelque chose qui nous a été donné pour continuer, même pas pour choisir d'avoir une vie qui n'est pas en règle avec Dieu. C'est très important. Et puis quand cet homme-là m'a fait cette commentaire-là, qui dit où est-ce qu'elle est la grâce, ça veut dire que lui, la grâce, il s'en sert pour avoir une vie qui n'est pas en règle avec Dieu. Voyez? Fait que c'est différent. Faut faire attention. Donc, je vous conseille ça. Si vous avez le goût d'une bonne portion, de parole de Dieu, une bonne portion divine, je vous conseille d'écouter ce pasteur. Et puis, je sais pas pourquoi je vous disais ça, là. On a fait on parlait de Sanballa et Tobija. Et puis, on a vu que Tobija, il y en a qui disaient que c'est ça, c'était probablement un juif à cause que les liens qu'il y avait. Vous allez voir, en tout cas, vous irez voir dans les références que je vous ai données, vous allez voir qu'il y avait des liens très, très forts avec des Juifs. Donc, il pensait que c'était un Juif, mais la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. La façon que Néhémie en parle, c'était quelqu'un de l'autre peuple. C'était un Ammonite. C'était pas un Juif. Donc, c'est une petite parenthèse. Sanballa, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ce que j'ai découvert un petit peu, ce qu'on va découvrir, je pense, ensemble, c'est que ces gens-là voulaient dominer sur le peuple d'Israël. On va le voir. Ils voulaient dominer sur eux. Puis quand il est venu, quand ils ont vu arriver Néhémie, ils ont vu arriver quelqu'un qui s'en venait délivrer. Parce que les peuples d'Israël étaient en servitude. Fait que les autres, ils voulaient dominer sur le peuple. Puis là, Néhémie arrivait pour libérer son peuple. T'sais. Donc, il était pas content de voir arriver Néhémie, les autres. Il était vraiment pas content au verset 10. Peut-être que Sambala et Tobija ne sont pas aussi préoccupés par l'aide apportée à Israël que par la menace que pose Néhémie à leur ambition démesurée sur Jérusalem. Et comme nous le verrons sous peu, ils ont raison de s'inquiéter de l'influence de Néhémie sur Jérusalem. Ils ont très raison d'être inquiets. Donc, Néhémie fait une enquête secrète en arrivant. Tu me souviens de ça? Non? Tu me souviens pas? Peu de temps après l'arrivée de Néhémie à Jérusalem, il partit en mission secrète pour enquêter autour de la muraille. Il sortit dans la nuit avec son cheval dans ses mérules. Et puis, il a fallu que quelques hommes, il a pris juste quelques hommes avec lui, on voit ça au verset 12, probablement des gens qui étaient dignes de confiance. Il savait qu'il parlerait pas. Lui, c'était important que le monde sache pas ce qu'il avait été fait. Voyez-vous comment il était? Il était prudent dans sa démarche et qu'il était prudent. Il révélait pas ses plans avant d'arriver. Moi, c'est ce qui m'a parlé quand j'ai étudié ça. Je me souviens de ce que le Seigneur nous avait dit. Révélez pas vos plans. Révélez pas vos plans. Et puis, lui, il sait que c'est gros ce qu'il est en train de faire. Il sait qu'il va avoir de l'opposition. Puis là, il s'assure que le secret est gardé. Faut pas donner de munitions à l'ennemi pour attaquer. C'est très, très sage. Et puis, même qu'il a même pas dit à ses hommes qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Il a pris des hommes avec lui, il a même pas dit aux hommes qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'il s'en allait faire? Spécial. Afin de maintenir le secret, il a pris juste un cheval, il a pris juste une monture. Et puis les versets, 13 à 15 décrivent le voyage clandestin autour d'une partie du mur. Il a pas fait le tour parce que je pense qu'il pouvait pas le faire, là. Il a examiné juste la partie du sud, peut-être, parce qu'il sentait pas le besoin de voir l'ensemble, il en avait vu assez. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé évaluer le travail. Il est allé évaluer ce qu'il y avait à faire. Puis il remarquait comment le verset 16 affirme le côté secret de la mission, vous irez voir ça. Et vraiment, il dit à personne qui savait, aucun magistrat qui savait que je faisais ça. Ensuite, ça nous révèle, ce passage-là, il nous révèle Néhémie comme un stratège. Et ce stratège, il est prudent. Puis il est solide, avec une solide, un sens du timing. Il fait ça juste avant. Puis toute son affaire est préparée et timée. C'est contraire à Esdras. Voyez-vous, il est différent d'Esdras. Il est très différent d'Esdras. Il a voulu évaluer l'ampleur de la tâche qui attendait, mais sans attirer l'attention sur lui-même et sans révéler ses plans trop tôt. Rien dans le passage ne suggère que Néhémie aurait abandonné le projet si, mettons, ça aurait été trop gros. Il est juste allé voir ce qu'il avait à faire. Donc, au contraire, il a attendu le bon moment. Puis quand ça a été le bon moment, il a annoncé ses plans au peuple de Juda. Néhémie était prêt à tirer le maximum du peuple en misant sur leur enthousiasme, sur le timing. Qui va l'annoncer ça. Mais il devait d'abord évaluer ce qu'il avait à accomplir. C'est pour ça qu'il avait été sorti en secret. Donc, Néhémie rassemble les troupes. C'est le dernier point qu'on va voir ensemble. Néhémie rassemble les troupes, versets 17 à 18. Après l'évaluation du mur, Néhémie parle aux Juifs de Jérusalem et de la région environnante. Verset 2-17, au chapitre 2-17, verset... Il a fait une déclaration sur la situation de la muraille et a appelé la population à participer à la solution. Qu'est-ce qu'il a fait? On a parlé de quoi, Daniel? Gestion participative. Vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait pendant. Il a fait la même chose que le roi avec le peuple. Il s'est pris de la même façon. Donc, ensuite, il a ajouté deux indicatifs à la motivation. D'abord, il a suggéré que par la reconstruction de la muraille, lui et tous les Juifs, je cite le verset 2:17, nous ne serons plus dans le problème. Les gens du milieu des terres s'étaient moqués de la triste situation de Jérusalem. Ils se moquaient d'eux autres, ils étaient dans le problème, ils étaient la risée de tous les autres peuples. Donc, Néhémie joue cette carte-là dans le cœur des Juifs. Il dit, on ne sera plus le problème des autres peuples. Donc, les gens avaient pris l'avantage sur la population. La muraille reconstruite, ça mettrait fin à ça. Enfin, ça mettrait fin. Ils vont arrêter de rire de nous autres. T'sais. Deuxièmement, Néhémie a dit aux gens, je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Voyez-vous ce qu'il a fait? Fait que la première fois, il a dit, si on reconstruit la muraille, ils vont arrêter de pleurer de nous autres, ils vont prendre notre dignité. Deuxièmement, il a parlé comment le Dieu avait marché en avant lui, puis comment que le roi était avec lui. Fait que ça les a motivés. Hey, le roi, il est avec nous autres. Reconstruire, tu sais. Fait que ça les a encouragés. Là, ils ont commencé tout ça, à reconstruire. Voyez-vous, il a fait la même chose qu'avec le roi. Exactement la même affaire. Néhémie a assuré le peuple qu'ils avaient Dieu et le roi de leur côté. C'est ce qu'il a fait. Hein, qu'il a fait ça. Dieu est avec nous, puis le roi aussi. Fait qu'est-ce qui peut nous arrêter? Ils pouvaient reconstruire avec confiance parce qu'ils avaient reçu le soutien des autorités supérieures, spirituelles, puis charnelles. Et le peuple, d'un commun accord, ont décidé de reconstruire et ont commencé à travailler sur le projet. On voit ça au verset 18, ça a commencé là. Le secret de l'enquête sur le travail a porté fruit. L'enquête, le fait que c'était secret. Puis là, Néhémie, il avait planifié son affaire. Il voulait vraiment, lui, il voulait pas laisser le... Voyez-vous pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a gardé ça secret? Il voulait pas donner l'occasion à personne de venir faire de la médisance sur la reconstruction de la muraille. Il savait que ça serait su, Sanballat puis Tobija, c'est arrivé, là. Voyons, donc, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'ils vont le faire plus tard, mais il est trop tard, là. Il a craqué ses troupes avant que les autres arrivent. Fait que lui, il voulait enlever cet effet négatif-là. Il pensait à son affaire pas mal, mais on voit ça. Il était très stratégique. Donc, là, c'est ça. Néhémie savait que si les plans étaient dévoilés trop tôt, il donnait une porte à l'adversaire pour venir attaquer. Donc, ça va être tout ce qu'on va voir aujourd'hui, mais dans ce passage-là, on voit un Néhémie qui était motivateur du peuple, qui est en gestion participative. Il a identifié le problème, il a formulé une solution, il a appelé la population à s'impliquer, et puis dans la solution, puis il les a motivés à agir en s'attaquant à leurs préoccupations et à leurs intérêts personnels. C'est ce qu'il a fait. Donc, on voit un bel exemple de gestion participative ici. Puis Néhémie a attendu 4 mois avant d'agir. C'était quelqu'un qui se préparait dans la prière. Il était vraiment préparé. Il n'avait pas agi sur le coup des émotions. C'est vraiment, il avait été voir son Dieu. Et puis, il agissait pas. Il attendait la conviction du Saint-Esprit. Donc, moi, j'ai terminé en disant, Seigneur, apprends-nous à ne pas agir trop rapidement. Et à attendre les convictions du Saint-Esprit avant d'agir. Apprends-nous à ne pas dévoiler ce que tu as mis dans notre cœur trop rapidement pour se protéger des attaques de l'ennemi. Ensuite, apprends-nous à agir seulement sur le plein conseil de ta volonté. Amen. Donc, si vous voulez, on va remettre ça en prière et puis on va faire un appel et puis ça va être le temps d'aller célébrer au restaurant la fête des moments. Donc, merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes. Merci que tu peux nous diriger comme tu as dirigé Néhémie. Merci Seigneur qu'on peut se confier à toi, on peut s'en remettre à toi pour être dirigé, pour être vraiment conduit par ton Saint-Esprit. Merci pour cet enseignement qu'on a eu aujourd'hui. On te demande d'avoir ces qualités de leader en nous, qu'on puisse être ces leaders qui travaillent pour toi, dans ton plan, dans ta maison, pour reconstruire ta muraille spirituelle, Seigneur. Et puis, on te remercie, Seigneur Jésus. Et puis, si tu as entendu cette prédication aujourd'hui, et puis que tu aimerais avoir une relation personnelle avec le Seigneur, la Bible dit que c'est impossible à l'homme d'être sauvé. On l'a encore entendu vendredi passé. Et Jésus lui-même, il dit, c'est impossible à l'homme. Et impossible à l'homme par ses propres forces, par ce qu'il doit faire, qu'il va pouvoir entrer au ciel. Par contre, Dieu a pourvu une solution. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'on est séparé de Dieu. La Bible dit qu'on est tous, on a tous été renformés. Dans Romains 3, 23, ça dit que tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu à cause de la nature qu'on a reçue de nos ancêtres qui ont fait un mauvais choix. Donc, on a reçu cette nature-là et on est privé de la gloire de Dieu. Mais, la Bible dit aussi que Dieu a pourvu une solution qui dit qu'il nous a tant aimé, c'est une histoire d'amour, il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous à la croix. Dans Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1,12, ça dit à celui qui l'a cru, qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc on voit que tu n'as rien à faire, mais que tu as quelque chose à recevoir. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es pécheur, que tu peux pas te sauver par toi-même. Si tu penses à quelque part que tu es une bonne personne, puis que Dieu va t'accepter parce que tu es une bonne personne, ben je suis désolé. Mais tu vas arriver devant un Dieu qui va dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai point connu. Dieu, il veut avoir une relation personnelle avec toi. Il veut que tu prennes une décision avec ton cœur et que tu reçoives Jésus-Christ dans ton cœur. Et puis, il veut avoir une relation vivante avec toi parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il vit aujourd'hui. Et puis, si tu veux avoir cette relation, ben Dieu regarde à ton cœur. Il regarde pas à ta raison. Si tu lis une prière sur un papier ou tu fais une prière que tu répètes, parce que quelqu'un te dit de la faire, mais tu expérimenteras pas la vie éternelle. Mais si tu le demandes avec ton cœur, si tu demandes à Jésus de te sauver, que tu reconnais que tu ne veux pas te sauver par toi-même, et la Bible dit, aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu et que tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Et puis si tu veux, on va te conduire dans une prière. Et puis si tu veux faire cette prière avec ton cœur, aujourd'hui tu vas expérimenter la vie éternelle. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je voudrais te prier pour les gens qui ont fait cette prière à distance, que tu touches leur cœur maintenant, que tu les sauves, que tu leur envoies des disciples, Seigneur, qu'ils deviennent la sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus. Dans partout où ils seront. Et puis, on veut te remercier, Seigneur, et puis on te prie dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Merci beaucoup.